OK. Mais d'abord, on va parler donc de cette histoire des complotistes. Je vous fais entendre un extrait de Richard Justice Majot. Il a diffusé ça sur les vidéos. C'est un anti-masque. Écoutez-le bien.
Il y en a qui sont d'accord avec moi. On va aller voir les hôpitaux. Les hôpitaux sont vides. Les journalistes font pas leur job. Ils nous manipulent. Que c'est nous autres, on va aller entrer les hôpitaux. Ça me prête des amis. On va monter des groupes de 10 personnes pour aller voir les hôpitaux. Ça serait le fun. Notre première action, si on pourrait avoir, on pourrait couvrir 10 hôpitaux, autrement dit, 100 bénévoles. Fait que c'est pas compliqué. Tu rentres, t'arrives à l'hôpital pour l'urgence. Comme bien, s'il y a des gardiens de sécurité, il n'y en a pas 10, là. Habituellement, il y a un ou deux. Un ou deux, il y a deux ou quatre bras. Puis si on a accès à des ascenseurs, les 10 personnes, je pense qu'on devrait monter chaque étage et aller filmer chaque étage. Vous arrêterons. Regarde, massacre. Que ça me prend des soldats, là. Ouais, on devrait s'acheter tous des habits de préposés. Ça passe partout dans les études.
Bon, comment est-ce qu'on gère ça, là? Là, on va se tourner vers le docteur Gilles Chamberlain, qui est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Docteur Chamberlain, bonjour.
Bonjour.
Bon, d'abord, quand il dit, là, les hôpitaux sont vides, là, est-ce qu'il se croit? Est-ce qu'il croit vraiment que s'il rentre dans un hôpital, lui-là, là, les étages vont être vides, puis partout où ça déborde de patients COVID, il n'y en aura pas, là, il n'y en verra pas, là. Est-ce qu'il se croit?
Je suis pas mal certain que oui. La raison dont tu parles, là, je vous dirais que oui, c'est assez évident qu'il se croit, oui. Et comment on peut expliquer ça? L'explication ne vaut pas pour tout le monde dans ces groupes-là, là. Mais il y a quand même 1% des gens qui ont un trouble délirant. 1%, c'est beaucoup. Et de délirer sur ce sujet-là, c'est comme donné, là. Avant ça, on avait des délires sur la religion. On n'en a presque plus. Il y a beaucoup de délires de persécution paranoïde. Ça comble un peu les deux. La définition d'un délire, c'est que c'est une croyance qui est fausse, qui est irréductible par la logique. Quels que soient les arguments qu'on va amener, évidemment, on ne pourra pas réussir à convaincre la personne. Dans ce cas-ci, si jamais il allait visiter un hôpital puis il voyait plein de monde, c'est certain qu'il dirait quelque chose du style. C'est sûr, ils ont su qu'on s'en venait, puis ils ont pacté l'hôpital de tous ceux qui ont trouvé, ou encore ils ont engagé des acteurs pour les mettre là. Un peu comme il avait dit avec le pauvre monsieur là, qui a fait l'annonce. Donc, quels que soient les arguments logiques qu'on va amener, ils vont toujours trouver quelque chose pour contrer ça. Donc, c'est irréductible par la logique. Et le troisième critère, c'est non partagé par l'entourage. C'est là qu'est le problème, parce que là, ils sont toute une gang à croire ça. Mmh. C'est vrai certain que les plus convaincus, il y en a là-dedans qui ont un trouble délirant, c'est certain.
Un trouble de quoi, vous dites?
Un trouble délirant. Un trouble délirant. À type de persécution. On les persécute. Et ça devient presque une religion aussi, là. Parce que quand on est plusieurs à croire à ça, pour ceux qui sont plus vieux, qui se souviennent de 1984, qui ont lu le livre ou qui ont vu le film, ou plus récemment, la Matrice, les gens qui croient dans ce film-là, la personne, elle était l'élu. Donc, quand on est l'élu, on peut pas être dans la masse. Il faut ressortir. On est quelques-uns qui avons compris que le système est en train de nous manipuler et on est des élus et nous, on avons compris, c'est normal que les autres ne puissent pas comprendre. Et ça, c'est presque comme une secte. Tant qu'on est dans le milieu, qu'on baigne dans ce milieu-là, qu'on reçoit de l'information qui nous alimente, bien, on peut continuer à croire ça.
OK, fait que la clé, c'est de les sortir de ce milieu-là, d'essayer de trouver une façon de les couper et de les ramener dans le monde, pas le monde fictif, pas le monde artificiel, pas le monde parallèle, mais le monde présent, c'est ça?
Un peu. Je vais donner un autre exemple. Il y a un autre phénomène qui s'appelle, en tout cas, un truc qui est bien connu, la folie à deux. Souvent, on a des personnes âgées qui vieillissent ensemble, sont un peu coupées de l'extérieur. S'il y en a un des deux qui devient délirant, l'autre le devient. Automatiquement, parce que celui qui est délirant est tellement convaincu, prend tellement de place. Et quand on les voit immédiatement, on ne peut pas dire lequel des deux est délirant. Fait que la théorie veut qu'on les sépare. Puis après un certain temps, il y en a un qui reste délirant, puis l'autre qui arrête d'être délirant. Donc, on peut induire une folie à quelqu'un. Et quand on est dans un groupe comme ça, mais c'est très possible de penser que les autres, chez les autres, c'est induit. Puis on pourrait se poser la question, comment ça se fait dans un monde de communication comme le nôtre, qu'on ne prend pas l'information contradictoire? Encore là, il y a deux phénomènes. Il y a les algorithmes qui nous renvoient toujours à des gens qui pensent comme nous, qui fait qu'on baigne toujours dans la même information. Puis il y a des études qui montrent que tout ce qui est écrit ou publié qui va à l'encontre de ce qu'on pense, on ne le lit pas. Tout ce qui est écrit qui va dans le sens de ce qu'on pense, on le lit. Fait que même s'il existe une multitude d'informations disponibles, on va la sélectionner. Soit les gens vont la sélectionner pour nous, avec des algorithmes, ou soit que nous-mêmes, on va la sélectionner. Et là, ça nous renforce dans notre idée.
Bon, là, vous avez compris, si je vous parle de ça, là, c'est pas juste parce que il circule cette idée là d'entrée de force dans les hôpitaux, mais c'est parce qu'on a quand même eu quelques épisodes là ces derniers temps, là, ces derniers jours. Vous vous rappelez là de la gang qui est allée à la place Rosemère? Ça, c'était organisé, là. Ils étaient organisés. D'ailleurs, la chef de clan, là, c'est une employée des services correctionnels, là, de la sécurité publique, là. Elle travaille dans les prisons. Et par ailleurs, il y a eu en fin de semaine aussi une manifestation là, qui a été organisée devant le Parlement là, par des anti-masques. Puis ils sont partis de plusieurs coins de la province, là, de plusieurs coins du Québec, puis ils ont convergé vers le Parlement. Ils sont présents, les complotistes. Là. Je vous parle pas de ça, là, parce que ça me fait plaisir de vous en parler. Je vous en parle parce que c'est un phénomène qui est encore très présent. Et là, vous comprenez qu'on est à quelques semaines de Noël. Si on veut pouvoir conserver la possibilité de se réunir, il faut garder sous contrôle l'infection, la pandémie. Et puis là, avec des personnes comme ça qui se foutent de tout, ils nous mettent à risque. Ils mettent à risque tout le monde. Je veux revenir, Dr Chamberlain, à ce que vous disiez, là, trouver une façon de les sortir de cet environnement toxique, dans le fond, de les sortir du groupe qui pense comme eux. Je lisais le papier de Nicolas Bérubé dans la presse la fin de semaine qui disait « C'est pas évident parce que ça relève pas de la rationalité, mais essayez de trouver des activités que vous partagiez avec ces personnes-là avant qu'ils tombent dans la soupe complotiste et vous allez peut-être pouvoir recréer un canal de communication. »
Absolument. C'est, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, d'essayer d'éviter ce sujet-là, de renouer avec ces gens-là, parce que dans mes fieux doux, dans mes fieux dents, si on essaie de les convaincre qu'ils n'ont pas raison, c'est déjà prévu. Dans leur tête à eux, c'est normal que quand on est les élus, puis que nous, on en a compris, qu'on essaie de nous mettre des sanctions. Puis plus on va mettre des sanctions, plus on va mettre des contraintes. En passant, il faut quand même appliquer la loi puis faire comme si ce groupe-là n'existait pas. Là, on applique la loi, on fait ce qu'on a à faire. Mais pour eux, dans leur tête, ça devient une preuve de plus qu'il y a un système qui est contre eux. Et puis, évidemment, on peut pas dire qu'on ils pensent non plus. Fait que le truc, c'est d'essayer de garder les liens qu'on avait en évitant ce sujet-là. Puis si le sujet tombe sur la table, on donne notre opinion. Mais faut s'attendre à ce qu'il y ait une opinion contraire. Il faut pas s'attendre à ce que ça marche et que ça logique.
Bon, regardez, Gilles Chamberlain, regardez bien, là, j'ai un texto ici, là. Alain. Mon fils s'est complètement coupé de la famille élargie, les parents, les grands-parents, depuis le mois de mars, parce qu'il ne veut pas admettre que la COVID existe. Ça me fait beaucoup de peine, je suis son père. Ses grands-parents ont aussi beaucoup de peine. Il a 26 ans, ça fait près de 6 mois qu'il a renié la famille, qu'il a renié sa famille. Je ne sais plus quoi faire, à l'aide.
Bon, mais dans ce cas-là, moi, ce que j'écrirais, c'est un peu le même message, mais adressé à lui. On t'aime, on s'ennuie. On t'apprécie. Cette différence-là ne devrait pas nous séparer. Puis on t'aime quand même. Puis la porte est ouverte. On peut pas faire plus qu'ouvrir la porte. La personne, elle va voir que la porte est ouverte. Elle le sait à quelque part aussi que la porte est ouverte. C'est elle qui veut se retrancher pour toutes sortes de raisons. Ça va être difficile, mais on laisse les portes ouvertes. On dit aux gens qu'on les aime. Puis ça sert à rien de pousser plus que ça.
Je vais vous dire, là, j'ai demandé aux gens est-ce que vous hésiteriez ou est-ce que vous seriez prêt à les dénoncer. Je dois vous dire, Dr Chamberlain, là, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui me répondent et qui me disent il faut les dénoncer. Il faut. Je vous dirai pas là tout ce que les gens m'écrivent, parce qu'il y en a qui iraient beaucoup plus que dénoncer, là, qui seraient prêts à les mettre en prison, il y en a même qui parlent de s'en prendre à eux physiquement. Là. Mais je vais vous dire, la patience des personnes qui respectent les règles présentement est pas mal à bout. Les gens sont vraiment... Ce que je reçois comme message présentement, Dr Chamberlain, c'est que la majorité là, qui respecte les consignes puis qui veut qu'on finisse par en venir à bout de la maudite là, COVID, sont bien tannés des complotistes puis des anti-masques. Ils n'ont plus de patience. Là.
Absolument. Moi, ce que je suggérais, c'est de faire ce qu'on a à faire. Il y a des lois, qu'on applique les lois, mais qu'on rajoute pas la colère qu'on peut avoir par-dessus. Ces gens-là ne comprennent pas, ils ne comprendront pas. Puis si on est en colère, ça va juste alimenter leur colère à eux. On fait ce qu'on a à faire, on applique les lois, on s'arrange pour se protéger le mieux possible. Ceux qui défient les lois, on les traite comme n'importe qui défie les lois. Mais si on rajoute la colère par-dessus, là, on va s'en aller en escalade. Il faut juste faire ce qu'on a à faire.
Gilles Chamberlain, psychiatre à l'Institut Philippe Pinel, merci.
Ça te fait plaisir.
Je vais prendre vos appels dans un instant pour vous demander... est-ce que vous les dénonceriez? Est-ce que vous souffrez de la présence d'un anti-masque parmi vos proches? Comment vous gérez ça? Mais Luc, d'abord ton commentaire. Luc Lavoie, bonjour.
Bonjour Bernard. Écoute, moi, je regarde le Richard Justice Majot.
Ouais.
Hein? Bon, il a diffusé ça, là, puis... Mais écoute...
Il se prend pour le sauveur, lui-là, là.
Ouais, ouais, mais il faut l'arrêter. Il faut que la police l'arrête. Il faut que ça arrête. Je veux dire, je comprends exactement ce que le docteur Chamberlain disait.
Mais là, il faut que la police l'arrête sous quel chef d'accusation?
Ben, incitation, comprends-tu, à commettre un crime? Voyons donc. Rentrer de façon, je sais pas,
mais illégale. Mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait.
Il l'encourage à le faire. C'est un crime, par exemple, de dire on devrait casser la gueule à un tel. Hein?
Oui, non, c'est, ça c'est... Bon.
Alors lui, là, il dit pire que ça, là. Il va rentrer dans les hôpitaux. Imagine, des anti-masques. Donc des gens qui sont pas probablement, mais fort possiblement porteurs parmi le groupe du vaccin, mais du virus. Écoute, non, on peut pas tolérer ça. On peut pas tolérer ça parce que ça met la vie en danger des autres. Maintenant, l'aspect psychiatrique, psychologique, tout ça, je laisse ça aux experts. Moi, je suis un citoyen, tu es un citoyen, nous sommes des citoyens, on fait tout ce qu'on peut, puis on est devant de la folie pareil. Peu importe les causes, peu importe quoi, arrêtez-le. Arrestation préventive. C'est dangereux. Vois-tu ça, s'il rentre dans un hôpital, qu'est-ce que ça va donner, ça? Voyons, je comprends, là.
Là, qu'on a beaucoup d'appels, me dit-on. Donc, je pense que c'est des gens qui m'appellent pour me dire notamment qu'ils vivent avec ça, des personnes autour d'elles et peut-être même dans certains cas qui les ont dénoncés. Fait que je vais vite, parce que je veux prendre le maximum d'appels après.
Ben, j'allais dire que j'ai une connaissance amicale qui est là-dedans. Puis, je garde le contact avec, mais on parle pas de ça.
Là, qu'on se reparle un peu plus tard.
Tantôt.
790-9850, 98985 pour les textos. Drainville, en commercial, 985fm.ca. Juste avant la pause, Nathalie?
Oui, bonjour. C'est épouvantable. J'en reviens juste pas. Je suis pris avec ma belle-mère et son conjoint. Je vous ai déjà écrit auparavant. Ils sont complotistes. Ils croient à rien. Ils essaient même de convaincre nos enfants, là... que la pandémie, là, c'est un complot. Puis mes enfants, ils en peuvent juste plus. Là.
Ils ont quel âge, vos enfants, Nathalie?
Ah, mes enfants ont 10, 13 et 14. Puis, oui, c'est ça. Eux, ils habitent en région, mais non, ils n'en ont pas dans leur région. Ça n'existe pas. Puis on sait bien qu'ils sont dans zone rouge, eux autres. Là,
comment ils se comportent par rapport au masque, Nathalie, votre belle-mère et son conjoint, qu'est-ce qu'ils font? Ils portent-tu?
Ben, quand ils n'ont pas le choix quand ils vont à l'épicerie, là. Mais ma belle-mère fait des trous dans son masque.
Elle fait des trous dans son masque?
Oui, elle fait des trous dans son masque parce qu'elle n'est pas capable de respirer avec ça. Comme si le COVID s'en apercevait pas, tu sais.
Bon, mais vous prenez ça en riant toujours.
Ouf, ouais, ben on a comme pas le choix, là. Mon conjoint, il commence à être à bout de patience, là, mais on sait pas quoi faire, là. Pour les fêtes, on les voit-tu, on les voit pas, tu sais, s'ils font pas attention.
Mais...
Eux, ils continuent à avoir du monde, puis ils sont très à risque, les deux, là, tu sais, c'est comme...
Ouais, vous avez une grosse décision à prendre, mais je suis tenté de vous dire qu'il vaudrait mieux pas les voir, Nathalie, honnêtement.
Je suis très d'accord, mais comment convaincre mon conjoint, là? Ça, c'est une autre histoire.
Je vous souhaite bonne chance, Nathalie, dans vos pourparlers, OK?
Merci
pour l'appel. 790-9850 après la pause. OK, on va aller aux appels. Bonjour, Sylvie.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, mon frère, il est anti-masque, il croit pas au COVID, mais... Il croit dur comme fer qu'il y a la preuve que le masque est dangereux.
Ah oui?
Il dit que lui, il reste dans une autre province. Puis quand ils ont été obligés de porter un masque, il y avait 55 cas. Puis trois semaines après, il en avait 2000.
Oui.
Et il dit, c'est la preuve. Depuis qu'on porte un masque, c'est plein.
Oh!
Puis il dit qu'on comprend rien.
Ah non, mais attends. Je trouve ça formidable ce que vous venez de dire là, Sylvie. Comment tu peux prendre un argument, leur virer de bord pour servir ta logique, te dire, depuis qu'on porte le masque, les cas augmentent, fait que c'est la preuve que le masque est nocif.
Dangereux. Oui. Et puis, il dit qu'il connaît plein de gens qui travaillent dans les hôpitaux, plein d'amis, des infirmiers, des préposés, puis ils lui disent toutes qu'ils n'ont rien à faire, ils se tournent les pouces.
Ah, mon Dieu. Bon, OK.
Tu ne peux pas le signer, c'est ses amis, ça a l'air.
Oui, c'est ça.
Non, mais celle-là, je l'ai trouvée bonne. Là. C'est que
non, elle est pas pire.
C'est dangereux de porter le masque. Il y a plus de monde maintenant qui sont malades.
Merci, merci Sylvie. Je vous souhaite bonne chance avec votre frère. J'ai plusieurs courriels et beaucoup, beaucoup de textos. Merci de votre participation. Marie qui me dit « Mon conjoint est complotiste. Il a réponse à tout si j'ose douter. Il me répond de faire mes recherches. Je lui interdis d'en parler, même si parfois il s'échappe. Mais il en parle à ses enfants, il croit que les hôpitaux sont vides, que le virus est une invention et qu'il y aura un reset en 2021. C'est épuisant, je vous dis, me dit Marie. J'ai Hélène. Alors Hélène, je vais vous dire, je vais vous lire son courriel. Là. Elle dit, moi j'ai trouvé la solution, si tu ne crois pas à la COVID et que tu l'attrapes, tu paieras toi-même tes soins hospitaliers. Et vous êtes très nombreux à m'écrire pour me dire... Les complotistes, les anti-masques qui ne croient pas au COVID, on devrait tout simplement les priver de carte d'assurance maladie. Si jamais ils tombent malades, ben ils paieront leurs frais hospitaliers. Il y en a même un là qui me dit on devrait faire un poinçon dans leur carte pour qu'ils puissent l'utiliser si jamais ils ont besoin de soins de santé. On s'en va à Stéphane. Bonjour.
Salut, ça va bien?
Très bien, vous?
Ah oui, très bien. Regardez, moi, là, ce que je t'avoue, c'est que c'est moi, là, écoute, je suis pas un complotiste, mais je respecte toutes les normes, je respecte toutes les lois comme tout le monde.
Mm.
Mais ça veut pas dire que je suis pour, là. Ça fait que je suis contre.
Attendez un peu, là. Vous êtes contre quoi au juste, là?
Ben, en fait, moi, je suis contre les mesures excessives là, face à la pandémie. Mais ça fait pas de moi quelqu'un qui est moins intelligent que quelqu'un. Ça fait pas de moi un complotiste. Ça fait pas de moi...
Mais vous reconnaissez l'existence... Stéphane, vous reconnaissez l'existence du virus ou pas?
Ben oui, effectivement, on le voit. Là. Tu sais, je veux dire, il y a des morts, c'est correct.
OK. Mais vous trouvez que les mesures pour contrer le virus, elles, vont trop loin?
Ben, exactement. Là.
D'accord.
Tu sais, je veux dire,
d'accord, mais ça fait pas de vous... Je suis d'accord avec vous, Stéphane, ça fait pas de vous un complotiste. En tout cas, pas à partir de ce que vous me dites là, ça fait pas de vous un complotiste. Vous avez le droit de dire que vous trouvez que le gouvernement gère mal ou que le gouvernement va trop loin. Ça fait pas de vous un complotiste, je suis d'accord avec vous. On va aller voir Mme France. Bonjour, Mme France.
Oui, bonjour, M. Drainville. Alors, moi, c'est pas tellement pour dénoncer des complotistes, mais hier, nous sommes allés faire l'épicerie. Puis il y avait un monsieur, là, qui se promenait dans l'épicerie avec le téléphone, puis il faisait toutes les rangées. Puis là, il parlait dans le téléphone, puis vu, tu sais, je veux pas juger, là, mais vu son habillement, on voyait que, bon, hein, c'était pas Rockefeller, là.
Ouais,
puis là,
okay.
Là, son masque, là,
ouais.
Il l'avait en dessous du nez des fois, puis il l'avait en dessous du menton, là. Mais il était tellement dégueulasse, là, crotté, là. Là, c'était la première fois que je voyais ça.
Oui.
Ça n'a jamais été dénoncé, cette affaire-là, là.
Mais Madame France, je veux dire, le fait qu'il soit négligé, on va dire, ça, il a le droit, là. L'affaire, c'est, est-ce qu'il se protégeait? Puis si vous me dites que non, s'il ne portait pas son masque, il n'y avait pas des agents de sécurité, mettons, vers lesquels vous auriez pu vous tourner pour dire, hey, il y en a un dans l'allée, là, lui, il porte pas. Non?
Non, après ça, ben, même quand il est passé à la caisse, là, je pense, peut-être la caissière aurait dû lui dire, là.
Mm.
Mais je vous le dis, là, tu sais, là, pas
d'accord.
De masque, ça aurait été mieux, je pense. Là.
D'accord. Merci, Mme France. J'ai beaucoup de textos, quelques exemples. D'abord, quelqu'un qui dit il y a de plus en plus de gens autour du globe qui se soulèvent. Moi, je suis pas complotiste, mais je suis pas idiot pour autant. Je suis fatigué d'entendre dire que ceux qui s'opposent au masque sont des criminels. Et là, il dit on va le porter le masque pendant au moins 2 ans. Et ça, c'est si on ne nous oblige pas à le porter encore plus longtemps. Le pire, c'est pas le masque, mais l'interdiction d'être en famille, de socialiser pendant encore combien d'années? Lui, là, il est juste sa limite, d'après ce que je comprends. Quelqu'un d'autre me dit, je travaille en psychiatrie depuis 30 ans, mes patients sont pour la plupart moins délirants que les complotistes. Vraiment difficile de les raisonner. Et un autre texto, peu importe c'est qui, je dénonce clairement. Et oui, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui sont complotistes. Il n'y a aucune place à la discussion avec eux. Ça, c'est Céline qui m'écrit. Et vous êtes très nombreux à être du même avis, à me dire, moi, là, avec tous les sacrifices que je fais, je vais pas me mettre en danger ou mon entourage parce que j'ai un complotiste, un anti-masque, quelqu'un qui veut pas respecter les consignes autour de moi. Fait que s'il faut que je le dénonce, je vais le dénoncer. Vraiment, là, vous êtes très nombreux à être dans cet état d'esprit. Très bien. D'ailleurs, sur l'assurance maladie, quelqu'un me répond, « Ah ouais, tu veux enlever l'assurance maladie aux anti-masques? Vas-tu l'enlever aux fumeurs également? » Ça, c'est une réponse qu'on reçoit aussi quand cette hypothèse est soulevée. OK, on s'en va à la pause. Au retour, le climat toxique allégué à Hockey Québec.